une rentrée pour chacun, pré-rentrée pour les professeurs et enseignants la semaine dernière, la rentrée pour cette année. Et pour cette rentrée, je me suis dit qu'on a peut-être de beaux projets et de belles motivations, mais il y a quelqu'un qui va mettre des obstacles sur notre chemin. Et je crois que, honnêtement, le plus grand obstacle que l'ennemi va semer dans nos cœurs, c'est celui du découragement. Petit mot, petit état d'esprit, mais qui peut faire de grands ravages, le découragement. Imaginez un étudiant prêt à voilà, embrasser son année, qui a mis tous ses atouts de côté, de son côté pour réussir, et le découragement vient, aïe, compliqué. Hein? Imaginez une église qui est dans la joie, et puis d'un coup le découragement tombe sur une église, aïe, difficulté pour s'en remettre. Et en regardant la vie du grand apôtre Paul, eh bien, je me suis rendu compte aussi, comme d'autres, qu'il a été aussi frappé de plein fouet par le découragement. Il est dit, par exemple, en Actes 18, verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, mais parle, ne te tais pas, car je suis moi avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville, c'est la ville de Corinthe. » Paul était découragé, et Dieu vient lui parler. Plus tard, acte 23:11, la nuit suivante, le Seigneur s'approcha et dit, de Paul et dit, « prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage à Rome. » Paul était découragé. Et puis, en allant à Rome, évidemment, et il donne son témoignage, c'est sur le bateau, la tempête est là, un ange de Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la grâce et de tous ceux qui naviguent avec toi. » Ah, découragement. Acte 28, 15, « Les frères de cette ville qui avaient eu de nos nouvelles, écrit l'évangéliste Luc, vinrent à notre rencontre, et Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. » Le grand apôtre a été frappé par le découragement. Alors, la question, la méditation que j'aimerais apporter ce matin, c'est comment vaincre ce découragement à travers la vie de cet apôtre? On sait que le découragement, c'est, il y a des causes, il y a aussi des ressources que Dieu met à notre disposition. Alors dans le grec, eh bien, ce découragement prend la forme donc du verbe prendre, donc le courage prend la forme de prendre courage, prendre confiance, dans le sens de être rassuré, redonner un esprit bien disposé. C'est ça être courageux. Évidemment, le contraire, c'est être vide de toute vigueur, découragement qui nous abat, nous épuise et qui nous enlève toute joie. On peut être découragé pour plusieurs raisons. Il y a des causes. Une des premières causes, ça peut être la critique ou les critiques, le rejet, l'opposition. On veut faire bien, on est engagé, puis quelqu'un nous critique. Hein? Une remarque désobligeante, qui va nous ridiculiser, un rejet, on se sent rejeté. Alors j'aime bien ce que Mark Twain avait écrit. Il disait de tous les hommes que je connais, le seul intelligent, c'est mon tailleur. Chaque fois que je vais chez lui, il reprend mes mesures. Par contre, les autres, ils m'ont mesuré une fois pour toutes et se figurent que leur jugement est toujours à ma taille. Ah, intéressant. L'apôtre Paul, eh bien, a été jugé par ses pairs. Il a été jugé par ses frères juifs et qui se sont opposés à lui. Il a subi un harcèlement des luttes. L'ennemi se fondait sur lui de tous côtés et tout le monde espérait le voir abandonné. Vous savez, c'est comme le psalmiste qui dit « Moi, je suis pour la paix, mais eux, dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Ça, de quoi décourager, non? On essaye de témoigner, on essaye de faire du bien, on essaie de s'engager pour Dieu, et voici que là, il y a une opposition. On est rejeté, on est même ridiculisé. À tel point que l'apôtre dit, mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des blasphèmes, Paul secoua ses vêtements et dit que votre sang retombe sur vos têtes. J'en suis pur dès maintenant, je me tournerai vers les païens. Le danger est de s'exposer. Et c'est vrai que si on a peur de s'exposer, parce qu'on a peur de recevoir des critiques, alors nous finissons par cacher notre foi. C'est vrai que j'ai bien aimé quand Anna l'a dit, j'ai appris à témoigner de ma foi à l'extérieur. Parfois, quand on est dans le monde de l'école, le collège c'est dur, le lycée moins parce qu'on peut s'afficher différemment, mais quand on est dans le monde universitaire comme le monde du travail, on peut opter pour le mode camouflage, vous savez. Je me fonds dans la masse, je dois pas faire de bruit, surtout qu'ils ne sachent pas que je suis chrétien, parce que j'ai peur qu'on me dise quelque chose et que ça me décourage. L'apôtre était constamment avec ce type de position, et parfois il perd des courages. Alors on peut être aussi découragé par la situation autour de nous. Pour Paul, eh bien ce sont la situation des églises qui le touchaient. Alors pas forcément des églises qu'ils avaient visitées, mais c'est très surprenant quand il écrit par exemple, sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Je ne sais pas pour combien d'églises vous priez, combien d'églises vous avez à cœur, mais pour Paul, c'était des dizaines d'églises. Et chaque fois qu'il avait des nouvelles des églises, eh bien il priait, il portait ça comme un souci. Et ça pouvait le décourager. N'êtes-vous pas découragé par la situation de l'église persécutée? Parfois, on a l'impression que plus on prie, et plus la fournaise s'abat sur cette église. N'êtes-vous pas découragé par la situation de l'église en France? Quand nous entendons des positions d'église qui n'ont rien à voir avec l'évangile, il y a de quoi être complètement découragé. Il n'y a pas que la persécution, il n'y a pas que l'opposition, il y a aussi les divisions au sein des églises. Paul écrivait aux Corinthiens, d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez, en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Alors je ne sais pas comment tu réagis quand tu entends une division d'une assemblée que tu connais. Je ne sais pas quelle est ta réaction. En tout cas, moi je sais que ça me décourage. Seigneur, ils ont tellement donné, ils ont tellement voulu. Bon, il n'y a peut-être pas forcément des gens accommodants ou compréhensifs, mais quand même, c'est ton œuvre. Je me souviens une fois, il y avait lors d'une pastorale, un pasteur qui s'est levé, il a dit, voilà, est-ce qu'il y a une église qui est intéressée par nos chaises? Parce que nous fermons nos locaux, nous fermons l'église et nous vendons nos chaises, quitte à les donner. Mais c'est triste. On peut aussi être découragé par un frère ou une sœur qui abandonne le Seigneur. Paul dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix, du Christ, et je vous en ai souvent parlé, et il dit, je vous en parle maintenant, il dit plus ce texte, oui, maintenant, il est en haut, encore en pleurant. Combien d'étudiants avons-nous connus qui ont embrassé un cursus en théologie? Combien sont-ils, un, allés jusqu'au bout? Et puis deux, combien ont-ils commencé un ministère qu'ils ont laissé au milieu? C'est décourageant. Et l'apôtre dit qu'il en parle maintenant, non pas en étant content, mais en pleurant. Il y a, mes frères et sœurs, des situations où nous sommes appelés à pleurer. Quand elle dit qu'elle veut donner cette année pour le Seigneur, mais c'est sérieux. Et nous sommes appelés à soutenir dans la prière et dans la communion afin que ce découragement ne vienne pas balayer ses motivations spirituelles. Paul dit que même un Démas a abandonné l'équipe par amour pour le monde présent. Il dit pas que c'est de sa faute. Il dit voilà des sources, des causes de découragement. Il y a aussi une autre cause qui est celle où nous sommes confrontés à nos propres limites. Oui, quand on ne maîtrise plus rien. Et surtout quand on commence à perdre de la vitalité physique. Job reçoit cette parole d'un ami, entre guillemets. Hein. Ah, il y a des amis parfois, hein, comme les amis de Job. Tes propos, dit-il, Eliphaz, relevaient celui qui trébuchait avant. Tu affermissais ce dont les genoux fléchissaient. Et maintenant, regarde-toi. Quand il s'agit de toi, tu es découragé. Maintenant que cela te touche, te voilà tout désemparé. Mes frères et sœurs, c'est normal lorsque nous sommes atteints dans nos capacités d'être découragés. C'est humain. Et puis, Paul dira aussi qu'il y a lui-même et son équipe, ils ont subi le découragement parce qu'ils étaient sous pression, épuisés, fatigués. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui est survenue, qui nous est survenue en Asie. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. On est loin de penser que, puisque c'est l'apôtre Paul, il craigne des gueules, évidemment. Et il est aussi sous cette pression. Hein. Et on peut être découragé par notre incapacité, ou nos incapacités. Ah Seigneur, je n'y arrive pas, à quoi bon? Jamais je n'y arriverai. Alors, je ne parle pas de l'apitoiement sur soi, hein. Je parle de vrais sujets d'épreuve, hein, de vraies luttes. Il y a aussi une cause, c'est lorsqu'on a ce sentiment qui nous envahit, vous savez, hein, lorsqu'on se sent abandonné et on vit une grande déception. Hein, déception qui peut plonger n'importe qui dans le découragement. Il suffit parfois d'un mot pour nous décourager et nous voilà anéantis. Hein, peut-être un travail qu'on a fourni pendant longtemps et les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce travail. Déception. Un homme qui était actif dans une église, eh bien, c'est ça, toutes ses activités, il quitta l'assemblée, lui et sa famille. Et quand on lui a demandé la raison pour laquelle il avait quitté l'assemblée, il a dit ceci: j'ai été déçu. Déçu, et j'ai perdu tout espoir dans mes frères et sœurs. Je voyais qu'ils agissaient de manière, le dimanche d'une certaine manière et en reste de semaine d'une autre manière. Certains mentaient, d'autres étaient malhonnêtes dans les affaires. Beaucoup me voyaient en galère, mais personne ne se manifestait. Le découragement avait complètement perdu cet homme et sa famille. Il avait le sentiment d'avoir été abandonné par les autres chrétiens. Alors ma réponse est toujours la même dans ces situations-là. On reconnaît en fait que l'Église du Seigneur n'est pas parfaite, hein, que les frères et sœurs peuvent nous décevoir, mais Dieu merci, tous ne nous déçoivent pas. Hein. Paul, lui, a été dans la déception. Il a été abandonné. Il dira à Timothée: « Dès ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Et sa réaction, et moi aussi, je les ai abandonnés, pas du tout. Sa réaction, c'est: qui ne leur soit pas tenu compte. Oui. À chaque fois, il a su rebondir. À chaque fois, il a su aller jusqu'au bout. Il a persévéré. Et Paul, avec l'aide de Dieu, a tenu bon. Il n'a jamais abandonné. Et c'est aussi, mon frère, ma sœur, une marque de notre maturité chrétienne, de ne pas abandonner. Alors, que dire du sentiment d'être abandonné par Dieu lui-même. Alors je parle de sentiment, hein, parce que ce n'est pas la réalité. Mais on peut avoir ce sentiment aussi. Alors comment surmonter ce découragement? Quelles sont les ressources que l'apôtre Paul a trouvées? Quelles sont les ressources que Dieu nous donne? Je dirais la première des choses, c'est: sois réaliste. Réaliste parce que ça arrive à tout le monde de se décourager. Tu n'es pas tout seul, je ne suis pas tout seul, même les chrétiens les plus édifiés peuvent se décourager. Si Dieu est intervenu dans la nuit pour encourager l'apôtre Paul, hein, pour l'encourager à reprendre courage justement, eh bien tu peux alors dire avec certitude que Paul aussi était soumis au découragement et aux faiblesses et à ses limites. Par exemple, le roi David était comme nous. Il avait ses moments de joie et de découragement. Le prophète Élie, nous dit Jacques, l'épître de Jacques, était un homme comme nous. Il avait ses moments de joie et ses moments de découragement. Paul était humain comme nous, avec ses moments de joie et ses moments de découragement. D'ailleurs, relisez Romains chapitre 7. Il est découragé de sa nature pécheresse. Hein? Où est-ce que je vais trouver une solution? Hein? C'était pas un surhomme. Nous ne sommes pas des surhommes. Nous ne sommes pas des surchrétiens. Paul pouvait dire à la fois, nous sommes toujours pleins de courage. Voilà. Nous sommes toujours pleins de courage. Nous sommes pleins de courage au point que nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et il peut aussi dire également, dans la même épître, quelques chapitres après, « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu de moindre repos, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors et crainte au dedans. » Lorsque Jésus est entré dans un cœur, lorsqu'il est entré dans ton cœur, est-ce pour autant que tu ne te décourages plus? Est-ce pour autant que tu ne pêches plus? Pour autant que tu n'as plus d'accès de colère et de moments de crainte? Évidemment que non. Il est important de se rappeler que ces choses restent présentes et restent même possibles et provoquent parfois des luttes en toi, mais ces choses-là ne règnent plus dans ta vie. Elles n'ont plus autorité sur toi. Elles sont tenues en échec parce que la vie de Jésus est en toi, si du moins tu t'es réellement converti. Il demeure chez toi avec une nouvelle puissance, avec cette puissance de vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul a compris. Dieu va manifester à travers sa faiblesse, la faiblesse de l'apôtre Paul, toute sa puissance. Donc, sois sans crainte, tu n'es pas tout seul, sois réaliste. La deuxième des choses, c'est souviens-toi des promesses du Seigneur. Et ça, c'est capital. Dans l'évangile de Jean, Jésus a dit, « Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. » Ça veut dire un soutien, un défenseur qui soit éternellement avec vous. Il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin. Voici, je viens vers vous. » Je ne vous laisserai pas orphelin. Dans la version du français courant, c'est « je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins ». Ça veut dire « je ne te laisserai pas te débrouiller, tu es découragé, reste découragé. Tu es en galère, reste en galère. Tu luttes, reste dans ta lutte. » Non, dit-il, « je ne vous laisserai pas devenir orphelin. » Jésus sait que les disciples connaîtront des oppositions, des déceptions et des découragements. Ça fait partie, mon frère, ma sœur, de la vie chrétienne. Mais si nous focalisons que là-dessus, nous n'avancerons pas. Regardons aux promesses de Dieu. Et ces paroles s'avèrent vraies pour les premiers disciples. Et nous les voyons dans tout le livre des Actes des Apôtres. Il lui dira lui-même que, voilà, prenez courage, vous aurez des tribulations. La pluie tombera, le vent soufflera, notre maison sera secouée. Mais sur qui cette maison est-elle bâtie? Jésus savait de quoi il parlait. Il les a vécues lui-même. Il ne peut pas dire « je vous enseigne quelque chose que je n'ai pas vécu. Je suis avec vous dans une situation que je ne connais pas. » Il a vécu à un niveau beaucoup plus puissant et beaucoup plus oppressant que nous. Il a enduré la trahison de Judas. Imaginez Jésus tous les jours voyant Judas, sachant qu'il allait le trahir. C'est quelque chose. Il a enduré le reniement de Pierre. Pierre qui lui a dit, tu sais, tu peux compter sur moi. Moi, c'est simple, je te défendrai contre vent et marée. Et Jésus a dit, mais Pierre, tu vas me décevoir. Imaginons sa rencontre avec des femmes adultères, des hommes d'affaires sans scrupules, des personnes critiques et des religieux hypocrites. Il endura de fausses accusations, un procès truqué, des outrages, de la douleur physique avec des disciples tièdes qu'il a formés pendant 3 ans. Et pourtant, il n'a pas abandonné. Le disciple doit savoir qu'il a un soutien précieux, celui qui n'a jamais abandonné. un aide, un encouragement à tenir bon. C'est la promesse du Saint-Esprit. Alors Dieu a rassuré l'apôtre Paul par sa présence et par ses promesses. Pas seulement l'apôtre Paul, mais ses promesses sont aussi pour nous. Dans une vision, Dieu a dit à Paul, sois sans crainte, mais parle, ne te tais pas, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi. Acte 23, la nuit suivante, le Seigneur s'approcha, qu'est-ce qu'il lui dit? Prends courage, Paul, car de même que tu as rendu témoignage à Jérusalem, tu vas le faire à Rome. Et il m'a dit, sois sans crainte, Paul, c'est dans Acte 27, 4, un ange de Dieu, il faut que tu comparaisses. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je veux dire, facile à dire. Facile à dire. Mais j'ai l'impression que nous surestimons parfois ce sentiment du découragement, alors que nous devrions juste dire à Dieu, c'est toi qui as raison. Souviens-toi des promesses sur lesquelles ta vie est basée. Souviens-toi ces promesses sur lesquelles Dieu a un projet pour toi. C'est pourquoi, dit l'Épître aux Hébreux, c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage que le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire l'homme? Alors, sois réaliste, souviens-toi des promesses de Dieu et souviens-toi aussi que tu n'es pas seul. Anaël, tu vas commencer une année à l'Institut biblique, eh bien, à l'année prochaine. Hein? Voilà, on n'en verra plus. Hein? Si tu nous envoies des nouvelles, c'est bien, sinon, écoute, hein? À la grâce de Dieu. Hein? Anaël n'est pas seul. Dieu n'a jamais voulu que tu sois un chrétien solitaire, mais plutôt un chrétien solidaire. Quand nous lisons dans les livres, dans l'Épître aux Corinthiens, par exemple, la question de la croissance spirituelle, Paul parle plutôt de la croissance de l'Église, hein, plus que la croissance individuelle, même si la croissance individuelle est importante. Mais nous appartenons à un corps dont nous sommes les membres. L'intention de Dieu est d'utiliser ses enfants. Regardez un exemple. Acte 13. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, donc au groupe qui est là, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Il ne dit pas « Mettez-moi à part Barnabas » ou « Mettez-moi à part Saul ». Il parle d'une équipe, d'un binôme. Quand Dieu appelle quelqu'un sur le champ missionnaire, eh bien, il envoie par équipe. Bon, qui va aller avec toi, je ne sais pas. Mais on va prier pour que des jeunes encore se lèvent et servent le Seigneur. Hein? En tout cas, c'est avec l'Église que tu partiras. C'est avec l'Église que vous ferez tous une rentrée ou une pré-rentrée. N'imagine pas que tu es seul. Il y a aussi cette dimension de l'Église. Le travail de l'équipe dans le livre des Actes, c'est Paul et Silas, Paul et Timothée, Apollos avec Priscille et Aquilas, et avec toute l'Église derrière eux. Et pour certaines, c'est pour cette raison que Paul va réprimander sévèrement l'Église de Corinthe, hein, qui se réclame bêtement d'un seul homme. Moi je suis de Paul, non moi je suis de Silas, non moi je suis de Christ. À une époque où l'image médiatique compte plus que tout, attention, nous chrétiens, ne soyons pas tentés d'idolâtrer un leader chrétien en particulier, parce que l'Église est une affaire d'un groupe, pas d'un homme, même s'il est mondialement réputé. Paul savait très bien qu'il avait besoin des autres chrétiens pour se laisser encourager. C'est pourquoi quand il est arrivé à Rome, eh bien les frères qui avaient entendu qu'il y avait l'apôtre Paul vinrent en leur rencontre et en les voyant. Moi je pense qu'il manque un mot là. Je pense que Paul a pleuré et qu'il a rendu grâce. Et ça l'a encouragé. Ah, on n'est pas seul. Il y a une équipe derrière nous. Oui, les amis chrétiens sont précieux. Paul a utilisé les autres pour l'affermir, le fortifier. Que faisons-nous le dimanche matin, mes frères et sœurs? En venant, j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu un qui courait, un autre qui bricolait, un autre qui... alors ça, je ne l'ai pas vu, mais je devine qu'il faisait sa grasse matinée. Hein, bah, les gens, hein, c'est un programme. Hein. Un autre qui préparait peut-être la réception de la famille. Mon frère, ma sœur, il y a tellement de choses à faire le dimanche matin. Mais nous sommes en église, pourquoi? Parce que nous ne savions pas quoi faire? Absolument pas. Pour nous fortifier pour grandir, pour des choses visibles et éternelles. C'est cela l'Église. C'est cela l'équipe. Oui, nous voulons bâtir notre maison sur le roc. Et quand le découragement viendra, nous serons ainsi armés. Tu te sens seul? Tu te sens peut-être découragé, incapable, ou peut-être tu as peur? Eh bien, je t'invite à saisir les promesses de Dieu. Et j'aimerais te laisser une promesse. Une promesse qui m'a touché pendant ma période de congé. Non, je vais dire autrement. Pendant ma période de congé, c'était super. Cette promesse m'a touché. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et s'y trouve hors d'atteinte. Alors, je l'ai partagé avec quelques-uns. Hein. Alors, ça m'a touché parce que je me suis dit, quand tu es découragé, voilà une solution, une ressource. Le nom de l'Éternel, qu'est-ce que c'est? C'est l'accès à Dieu. Quand est-ce que nous pouvons avoir accès à Dieu? Ben, 7 jours sur 7, H24. C'est merveilleux, non? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Comment accéder à une tour? Ben, pas par les côtés. Par la porte. La porte, c'est le Seigneur. Cette tour forte, c'est une sécurité. Voilà, c'est cela le nom de l'Éternel. Un ressourcement quand tu es découragé. La Bible est remplie de ces bonnes choses. C'est une tour forte. Le juste, qu'est-ce qu'il fait? Le juste, c'est le chrétien. C'est toi, c'est moi. Le juste, il y a cours. Oh, pas besoin de sprinter, hein. Même si tu marches avec une canne, tu peux y aller doucement. Même si tu as des difficultés à te mouvoir, tu peux y aller à ton rythme. Même avec peu de rigueur, de vigueur, par exemple, tu peux aller avec confiance. C'est le pas de foi. Le juste à court va avec la force que tu as. Et cette tour, eh bien, sera un refuge et tu verras que dans cette tour, tu rencontreras aussi des frères et sœurs. Parce qu'ils sont là, parce que nous sommes là pour être hors d'atteinte du découragement. Que le Seigneur renouvelle chacun de vous. Qu'il renouvelle votre courage, votre force, votre joie. Qu'il nous donne à chacun un esprit bien disposé pour accomplir encore cette année les projets que le Seigneur a en réserve pour chacun d'entre nous et pour l'Église. Que Dieu vous bénisse.